Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Plus de 400 000 spectateurs réunis dans la commune de Clisson, en Loire-Atlantique, du 17 au 26 juin. Grand rendez-vous des amoureux de métal, le Hellfest est devenu au fil des ans le plus grand festival de France. À cette occasion, Code Source vous raconte aujourd'hui l'histoire de l'un des groupes phares de cette édition 2022, Metallica. Récit de deux journalistes du Parisien, Michel Valentin et Julien Dufay. Julien Dufay, vous êtes journaliste au service politique du Parisien. Dans Code Source, on vous entend régulièrement pour parler de la gauche, mais vous êtes aussi, à titre personnel, fan de musique métal. Vous avez 45 ans. Quel est votre premier souvenir de Metallica ?
Mon premier souvenir de Metallica, c'est au collège, dans le tout début des années 90. C'est mon meilleur ami qui m'offre une cassette enregistrée de Metallica. C'est l'album Injustice for All. Et donc là, je découvre quelque chose que j'ai jamais entendu, c'est-à-dire des riffs tranchants. Alors les riffs, c'est des accords saturés de guitare, une batterie assez monstrueuse, quelque chose de très complexe, mais à la fois du groove, c'est-à-dire une musique très entraînante. C'est une vraie découverte.
Michel Valentin, vous êtes journaliste au service culture du Parisien. Vous avez 58 ans. Vous, depuis quand est-ce que vous écoutez Metallica ?
Depuis le tout début, parce que à l'époque, moi j'étais déjà fan de métal. J'avais 20 ans quand Metallica est apparu. Je faisais ce qu'on appelait à l'époque de la radio libre. J'animais des émissions musicales, donc je me suis empressé de passer Metallica. Honnêtement, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais entendu auparavant. Bien sûr, c'est du métal, avec des influences punk, etc. D'autres groupes avaient tenté ce mélange, mais jamais à ce point-là. Il y avait à la fois une batterie omniprésente, il y avait un son vraiment inédit. C'était vraiment un mélange tout neuf.
Michel Valentin, Julien Dufay, vous allez nous résumer aujourd'hui la saga Metallica. Et pour ça, on va repartir au tout début des années 80. À ce moment-là, Julien Dufay, qui est le futur batteur du groupe Lars Ulrich ?
Lars Ulrich, c'est un Danois, il est né à Copenhague et il vient d'arriver avec ses parents à Los Angeles. Et Lars Ulrich, il veut marcher dans les pas de son père et être tennisman professionnel. Mais il a aussi une autre passion dévorante, c'est le rock. Il a découvert Deep Purple à l'âge de 9 ans dans un concert. Et progressivement, cette passion du rock, de la batterie, va prendre le pas sur le tennis.
En 1981, Lars Ulrich cherche à monter un groupe. Comment il s'y prend ?
De manière assez classique pour pas mal de groupes, il passe une petite annonce dans un journal local de Los Angeles qui s'appelle The Recycler. Il dit « batteur cherche musicien de métal pour faire des jams, pour faire des buffs sur trois types de groupes ». Il les cite, c'est Iron Maiden, Tigers of Pentang et Diamond Head. C'est trois groupes de ce qu'on appelle la nouvelle vague du heavy metal britannique, un style dont est fan Lars Ulrich.
Et grâce à cette annonce, il rencontre le futur chanteur et guitariste, James Hetfield. Qui est-il à ce moment-là, Michel Valentin ?
Alors, il n'a pas vraiment le même profil que Lars Ulrich. Lui vient d'une famille américaine bon ton. Sa mère est chanteuse d'opérette, son père est chauffeur routier. L'ambiance familiale n'est pas très fun pour le petit James Hetfield qui trouve donc dans la musique vraiment un échappatoire. C'est vraiment quelque chose qui lui permet de vivre, voire de survivre. Et donc, quand il rencontre Lars Ulrich, c'est pour faire de la musique, mais c'est vraiment aussi pour s'échapper et pour essayer d'en vivre commercialement, parce que pour lui, sinon, son avenir est tout tracé, chauffeur routier comme son père.
Le groupe se constitue avec notamment le bassiste Cliff Burton. Cliff Burton exige au passage que tout le monde vienne vivre dans sa ville, San Francisco. Comment est-ce qu'ils jouent ensemble ? À quoi ça ressemble au tout début ?
Ça ressemble à un groupe peut-être un peu amateur, sauf que Cliff Burton, c'est la bonne pioche. Parce que même s'il n'a qu'un an d'écart avec les autres musiciens, lui est déjà professionnel. Il connaît déjà la théorie et le business musical, donc il connaît déjà quelques-unes des erreurs qu'il ne faut pas faire. Sa diversité de goûts musicaux incite le groupe à s'ouvrir, à avoir des passages acoustiques, à être un petit peu plus ambitieux que ce que aurait pu être au départ un Metallica bas du front.
Comment ils trouvent leur nom, Metallica ?
Le nom, c'est Lars Ulrich qui le trouve et la légende veut qu'il ait été approché par un fan de métal qui s'apprête à lancer un fanzine, un magazine de métal qui avait deux noms en tête, Metallica et Metalmania. Et il a dit non, Metalmania c'est bien mieux et il s'est gardé Metallica pour son groupe.
Le premier album de Metallica sort en 1983, Kill 'Em All, Tuez-les tous.
On peut reconnaître des influences Motorhead ou pour ceux qui connaissent le punk, GBH, Exploited, des choses comme ça. Mais le son, la vitesse, ça choque ou ça attire les gens, suivant leur disposition, mais c'est vraiment inédit.
Est-ce qu'il y a un titre marquant dans ce premier album ?
Il y en a plusieurs, on peut citer le tout premier qui s'appelle Hit the Lights. Et le deuxième, Seek and Destroy, qui était le slogan des unités spéciales américaines au Vietnam. Donc une imagerie guerrière qui va avec un riff particulièrement monolithique, mais entraînant, et qui fait que c'est toujours un morceau que le groupe joue un peu sur scène.
Michel Valentin, vous les interviewez une première fois en novembre 1984 à Bordeaux à l'occasion d'un concert dans une salle d'un millier de places, la salle des fêtes du Grand Parc.
Oui, à l'époque, Metallica entame sa première tournée française en tête d'affiche, mais c'est un tout jeune groupe, c'est des gens qui ont mon âge. Ils sont encore tout fous, c'est des jeunes chiens fous qui gambadent partout. À l'issue du concert, ils nous reçoivent, moi et quelques autres journalistes, au milieu des cartons de pizza qu'ils viennent de consommer. C'est la fête, il y a des bières qui traînent, tous les membres du groupe sont là, sauf Kirk Hammett qui est manifestement parti se coucher. Mais tous les autres sont super sympas, y compris Cliff Burton, qui est vraiment le bout en train du groupe, qui fait des blagues, qui rigole avec tout le monde. C'est vraiment un échange. Ils sont contents d'être là et nous, on est contents d'être avec eux.
Les deux albums suivants, qui sortent en 1984 et 1986, sont, eux aussi, très réussis.
Le premier s'appelle Ride the Lightning. Il surprend un peu parce qu'il est un peu en opposition à l'album d'avant. Il y a des morceaux moins rapides, le son est meilleur. Il y a cette fameuse balade Fade to Black, qui est un morceau qui prend de l'ampleur, qui est long, qui débute comme un truc acoustique et qui finit un peu sauvagement. On ne s'attendait pas du tout à ça de la part de Metallica, mais l'album marche très très bien. C'est ensuite qu'ils commencent à devenir un peu des vedettes. Et en 86, avec Master of Puppets, vraiment là, ils enfoncent le clou. C'est l'album qui est considéré comme un classique absolu. L'album est maîtrisé de bout en bout. On sent que là, on tient quand même un groupe qui va devenir quelque chose d'énorme.
Julien Dufay, à cette période, Metallica joue la sobriété.
Oui, d'abord physiquement, ils sont habillés en noir, sans aucune fioriture, à part ces cheveux longs qu'ils portent tous. Ils ont une forme d'austérité aussi, presque, de sobriété, sur scène en tout cas. Et puis, cette volonté de ne pas faire de compromis sur leur musique, et ça les pousse notamment à refuser de faire des clips, alors qu'à l'époque, la chaîne MTV aux États-Unis est en train d'exploser avec les clips musicaux déversés à longueur de journée. Ils vont refuser longtemps d'en faire.
Julien Dufay, en pleine ascension, le samedi 27 septembre 1986, Metallica est frappé par un drame en pleine tournée en Suède.
En fait, le groupe est dans son tourbus, c'est un car aménagé avec des couchettes que le groupe emprunte entre deux dates de concert, là c'est entre Stockholm et Copenhague, et dans le sud de la Suède, donc au petit matin, le car se renverse et Cliff Burton, donc le bassiste du groupe qui a 24 ans, est éjecté par la vitre et le bus retombe sur lui, il meurt sur le coup.
Le groupe décide de continuer malgré la mort de Cliff Burton avec un nouveau bassiste. Metallica sort en 1988 l'album Injustice for All dont vous parliez, Julien, au début de cet épisode. Et en août 1991, un 33 tours intitulé Metallica à la pochette minimaliste, Michel Valentin.
Oui, la pochette de premier aspect, elle a l'air complètement noire, sauf qu'on s'aperçoit, si on regarde bien, qu'il y a en petit relief le nom du groupe et aussi un serpent à sonnette enroulé sur lui-même qui ne donnera pas son nom à l'album. Il n'y a pas de snake, mais l'album est surnommé The Black Album, l'album noir.
Dans cet album, il y a plusieurs énormes tubes.
Oui, l'album compte pas moins de 5 qui seront extraits en single, ce qui est pas mal pour un album qui en compte 12, dont le mythique Enter Sandman, riff terrible et refrain très mélodique.
Dans le Black Album, il y a aussi une ballade, Nothing Else Matter.
Oui, alors là, c'est vraiment la chanson qui est la plus connue de Metallica. C'est une sorte de déclaration d'amour ou d'amitié. Et c'est vraiment un tube qui comptabilise 1 milliard de vues sur YouTube, qui est utilisé dans les mariages. Enfin, c'est vraiment la chanson la plus connue de Metallica.
Michel Valentin, le Black Album est un succès planétaire.
L'album est numéro 1 aux États-Unis, il est numéro 1 dans énormément de pays comme la Grande-Bretagne, l'Autriche, l'Australie, le Portugal, etc. En France, il fait qu'un petit numéro 19, mais il se vend à pas moins de 25 millions d'exemplaires à travers le monde, ce qui est proprement ahurissant. So close, no matter how far.
Les années qui suivent, Metallica se consacre à une tournée à travers le monde, des centaines de concerts, souvent dans des stades, période pendant laquelle tous les membres du groupe plongent dans des excès.
Oui, il faut se rendre compte que c'est une tournée qui est dantesque. C'est 300 dates qu'ils vont faire sur 2 ans. Donc, on imagine, quoi, c'est un concert par soir, ou en tout cas tous les 2 jours. Et pour tenir, ce groupe qui est déjà assez connu pour ses beuveries, ses excès, ils ont un surnom qui est Alcoolica dans les années 80 et ensuite, ils vont boire encore plus et ils vont même prendre des drogues, notamment de la cocaïne. Donc, c'est un peu une période de bascule pour Metallica.
À la fin des années 90, Metallica est moins inspiré. Les albums intitulés Loud et Reload, sortis en 96 puis en 97, déroutent leurs fans.
D'abord musicalement, parce que ce sont des albums avec des morceaux beaucoup plus rock que metal. Certains sont même un peu country. C'est un style qu'affectionne James Hetfield. Il y a aussi leur look qui va changer complètement. Ça peut paraître anodin, mais bon, ça va déranger certains fans. C'est-à-dire qu'ils vont couper leurs cheveux. On va les voir poser, maquillés avec des cigares, vraiment des barreaux de chaise. Ils vont commencer à se tatouer. Enfin, il y a un vrai changement aussi sur l'esthétique du groupe.
Quelques années plus tard, entre 2000 et 2001, Metallica lance une action en justice contre le site de partage de fichiers et notamment de musique en MP3, Napster.
Oui, donc c'est le boom à l'époque des téléchargements de fichiers et Lars Ulrich notamment, qui est un peu le gardien du temple, hein, celui qui s'occupe de tout en fait dans Metallica et surtout beaucoup de ce qui est extra-musical, va intenter un procès contre Napster pour préserver la propriété intellectuelle des chansons, mais ça va être quand même très mal perçu dans l'opinion en général et chez certains fans, cette volonté de vouloir à tout prix garder l'argent.
Et au début de l'année 2001, le bassiste Jason Newsted décide de partir. Il veut se consacrer à un autre groupe qu'il a formé. Julien Dufay, Metallica est en crise et décide de faire une thérapie.
Oui, ils vont faire appel à un coach ou un psychothérapeute, on va dire, qui est spécialisé vraiment dans les crises, notamment d'équipes sportives, où les relations sont orageuses entre les membres de l'équipe. Et donc là, il fait ça pour Metallica. Il s'agit vraiment de réparer un peu Metallica qui a été ébranlé par le départ du bassiste, hein, vraiment. Et ça révèle en fait des profonds problèmes au sein du groupe et notamment la mainmise un peu sur le processus musical et au-delà sur le groupe de Hetfield Ulrich par rapport aux autres membres du groupe, donc Kirk Hammett qui va rester et puis le bassiste qui vient de partir et qu'il faut remplacer.
Julien Dufay, ces séances sont filmées et du coup, on va voir tout ça, ces discussions animées, ces disputes, dans un documentaire intitulé « Some kind of monster, une sorte de monstre ».
C'est un document assez incroyable parce qu'on plonge vraiment dans l'intimité de Metallica et de ses membres et on découvre un peu aussi leurs aspects les moins reluisants et on voit notamment la relation qui est très orageuse voire plus entre James Hetfield et Lars Ulrich qui s'insultent carrément au visage.
It's so silly, you're just sitting there going, I'm in a really pissy mood and
I fucking told you straight up that I was.
Right.
And what are you trying to do?
I'm not trying to do fucking shit. You're just sitting here being a complete dick.
Michel Valentin, les deux piliers du groupe, le chanteur James Hetfield et le batteur Lars Ulrich, ils sont aux antipodes dans leur façon de penser.
Exactement. Lars Ulrich est quelqu'un d'un peu calculateur, mais dans le bon sens du terme. Il veut faire carrière et voilà, il veut se donner tous les moyens pour y arriver. Et c'est un énorme bosseur. Hetfield est aussi un énorme bosseur, mais il a un sens de la famille, du temps qui n'est pas le même. Lui, il voudrait aussi pouvoir faire des choses à côté, avoir un peu plus de temps à consacrer à sa famille. Donc c'est pour ça que ça clash.
À cette période, en parallèle de la thérapie, le groupe essaie d'enregistrer un nouvel album. Ils ont installé leurs instruments, leur matériel dans une ancienne caserne de l'armée à San Rafael, près de San Francisco. Objectif, retrouver leur énergie créatrice. Mais un jour, le chanteur James Hetfield ne vient pas.
Oui, à un moment, il disparaît et on apprend qu'il est parti en cure de désintoxication, à la fois pour alcoolisme et on dit aussi pour d'autres substances. Et le groupe va rester de longs mois, presque un an en fait, sans savoir si James Hetfield va revenir, si Metallica est mort. Ça laisse dans l'expectative les membres du groupe, mais aussi la centaine de personnes de Metallica, qui est une sorte de PME, quoi, et puis évidemment les fans à travers le monde.
Finalement, le chanteur James Hetfield rejoint le groupe, les enregistrements reprennent et l'album qu'ils ont enregistré, Saint Anger, sort le 5 juin 2003. Michel Valentin, c'est un échec commercial et critique.
Le son fait l'objet de toutes les critiques, le son est très mauvais, on n'entend pas la basse, il n'y a plus de bassiste dans le groupe, donc c'est le producteur qui s'y est collé, mais il a carrément effacé ses pistes, c'est pas croyable, on n'entend pas du tout la basse. C'est un très très gros problème que les fans souligneront, mais aussi la pauvreté artistique des morceaux. L'album fait définitivement partie de ceux des moins préférés des fans.
Malgré tout, Julien Dufay, Metallica continue de remplir des stades à travers le monde. Comment ça se fait ?
Parce que ça reste quand même un excellent groupe live, quoi, à grand spectacle. Hein, ils font des shows qui sont très appréciés. Et puis, il y a des nouvelles générations de fans qui arrivent. Voilà, on va au concert Metallica un peu comme... pour commémorer comme à la messe avec ces rituels, les t-shirts Metallica, cette musique d'Ennio Morricone, du Bon, de la Bête et le Truand qui ouvre chaque concert, des hymnes des premiers albums qui sont systématiquement joués. On se raccroche à l'âge d'or du groupe et aux concerts hein, comme pour communier, mais on ne retrouve pas la fougue des premiers albums.
En 2011, Metallica enregistre un disque avec l'ancien chanteur du Velvet Underground, Lou Reed, et le rendu déçoit une nouvelle fois les fans. En 2016, le 18 novembre 2016, Metallica sort son 10e album studio. Michel Valentin, vous êtes invité à New York pour découvrir ce disque en avant-première pour Le Parisien et vous interviewez le chanteur James Hetfield. Racontez-nous cette interview d'abord.
J'ai face à moi un James Hetfield qui semble avoir enfin trouvé la paix, qui est beaucoup plus calme, qui est réfléchi. Il est très content que je l'ai rencontré autrefois, même s'il ne se souvient pas. Il me dit « Ah, c'est bien, tu m'as connu à la grande époque ». C'est vraiment quelqu'un de sympathique, on a l'impression de l'avoir connu tout le temps. Je pense qu'il fait ça un peu avec tout le monde, mais c'est pas grave, il a une approche vraiment nouvelle et on sent qu'il est vraiment fier de son album. On sent que là, il y a quelque chose qu'il va défendre, dans lequel il s'est beaucoup investi.
On trouve notre inspiration dans tout ce qui nous entoure. Dans les films, nos enfants, en écoutant les autres styles de musique, tout cela nous a fait mûrir. On a plus confiance en nous, on est mieux dans notre peau, et toute cette confiance, on la ressent dans cet album.
Cet album s'intitule Hardwired to Self-Destruct, programmé pour l'autodestruction. Il est comment ?
Metallica essaie à la fois de satisfaire ses vieux fans qui ont envie d'entendre des titres bien métal, rapides, un peu comme autrefois. Et puis, il a aussi des titres plus ambitieux, plus progressifs, peut-être plus radiophoniques, qui vont lui permettre aussi d'accrocher des nouvelles générations. Donc un bon choix, une bonne démarche artistique qui sera d'ailleurs saluée commercialement.
Julien Dufay, que se disent les fans à ce moment-là ?
Il y a une forme de soulagement, parce que ça fait 8 ans qu'ils attendent cet album. Il y a clairement une forme de regain d'intérêt aussi pour Metallica, un peu l'album qu'on n'attendait pas. Il y a une forme de satisfaction à voir que ces 4 musiciens qui approchent 60 ans, qui ont passé 40 ans sur les routes, sont toujours là à jouer du heavy metal, qui prennent visiblement du plaisir malgré les 130 millions d'albums, les montagnes de dollars, le monstre de la marque Metallica.
Michel Valentin, on enregistre cet épisode de Code Source à quelques jours du concert géant que va donner Metallica dans le cadre du festival Hellfest à Clisson en Loire-Atlantique. Vous serez dans la foule pour Le Parisien. Vous ressentez quoi avant de les voir à nouveau sur scène ?
Quel que soit ce qu'ils nous proposent, on sait que ça sera fort. Metallica n'a jamais fait un mauvais concert sur scène. En tout cas, moi, j'ai pas vu. Dans la vingtaine que j'ai vu, j'ai jamais vu un mauvais concert de Metallica. C'est ça qui est génial, c'est que je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Metallica est un groupe qui est capable de changer de répertoire d'un jour sur l'autre. Si ça se trouve, ils vont nous faire un trip nostalgie et jouer que des vieux morceaux, que des morceaux peu connus. Ou au contraire, ils vont faire un best-of. Je n'en sais rien, c'est Metallica.
Merci à Michel Valentin et Julien Dufay. Cet épisode de Code Source a été produit par Lola Sotti, Thibault Lambert et Sarah Amni. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win, We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.